OK, c'est pourquoi je t'exhorte. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du message à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, qui nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et qui a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Quand on lit un texte comme ça dans le cadre de notre culte personnel, mon ami, on regarde ça, ah, wow, on dit, wow, quel texte! Il y a une capsule d'énergie là-dedans qui est incroyable. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir dans la parole de Dieu, c'est que nous, comme chrétiens, on est en contact avec les gens du monde, n'est-ce pas? Normalement, on ne devrait pas vivre dans une bulle. On ne devrait pas être dans la boulamite. On ne devrait pas être déconnecté. On ne vit pas dans des couvents. On ne vit pas dans des monastères. On est en contact avec le vrai monde. Même nous, on est du vrai monde, n'est-ce pas? On est du vrai monde. On peut se toucher, puis on sait qu'on est du vrai monde. Quand on nous pile sur un pied, ça nous fait mal. Et on vit les vraies expériences du vrai monde, n'est-ce pas? Et c'est important de comprendre qu'on est dans un monde, mais dans un monde qui vit sans l'autorité de Dieu. Et on est dans un monde qui est en train d'essayer, c'est un monde postmoderne dans lequel on est en train d'essayer d'éliminer dans le monde, dans le fond, la crédibilité de Christ, et on regarde toutes les attaques qu'il y a eu avec le code da Vinci, maintenant avec le tombeau vide, c'est-à-dire le tombeau là, de Jésus qu'ils ont retrouvé supposément, et toutes ces choses-là, on voit que le monde essaie de se débarrasser de la crédibilité de Jésus. Jésus, il est fatigant, il nous interpelle, sa vie nous interpelle, qui de vous me convaincra de péché? C'est fatigant, gars, comme ça, n'est-ce pas? Et le monde veut se débarrasser de ça. Le diable derrière le monde veut effacer la présence de Christ. Veut effacer la signature de Dieu. Et on est là, et quand on comme chrétien, on est dans ce monde-là, Dieu nous a laissé dans le monde, il a voulu qu'on soit là, on est souvent confronté. On est confronté avec toutes sortes de choses. Et vous savez, on est confronté avec tous les ismes du monde. L'hédonisme, n'est-ce pas? On est confronté avec des jouisseurs de la vie. On est dans un monde qui nous dit le plaisir malgré tout. Ouais, l'important c'est de jouer de la vie au détriment de Dieu. On est confronté avec des rationalistes qui ont l'impression que leur faux raisonnement, c'est un peu comme Adam qui se cachait derrière son buisson. Ils se cachent derrière leur faux raisonnement. Et le but, c'est d'éviter l'autorité de Dieu. N'importe quoi, mais pas l'autorité de Dieu. On est confronté avec les gens qui se jettent dans le matérialisme, et souvent, vous savez quoi, même ça vient nous chercher. On a une tendance à se laisser accaparer. On se laisse accaparer par le tout ce qui nous entoure. On est dans un monde de consommation, et vous savez, on a une prédisposition à la consommation qui est tout à fait naturelle. On n'a même pas besoin de se forcer pour ça, n'est-ce pas? Donc, on est confronté avec ça, on est confronté avec quelques personnes qui, de temps en temps, semblent un peu plus spirituelles que les autres, les ascétiques, les ascètes, ces gens-là qui, on a l'impression, on les regarde vivre, ils font des mortifications, ils font toutes sortes de choses comme ça, des purifications. J'ai rencontré un jeune homme dernièrement, le jeune homme est allé pendant une semaine de temps dans une chambre de noirceur pour se purifier. Il faut le faire, une semaine de temps. Et vous savez quoi, il sortait de là, les yeux bien creux, le regard bien fixe. C'est excessivement dangereux, ces choses-là. Mais on est confronté avec l'athéisme qui nie la réalité de Dieu et qui veut enlever à Dieu tous ses droits, qui veut enlever à Dieu le privilège d'être Dieu et qui désire se centrer sur leur nombril, faire du nombrilisme et de voir, dans le fond, que Dieu ne les achale pas. On est confronté avec des gens qui souffrent d'isolationnisme, les gens s'isolent. Proverbe 18:1 nous le dit, des gens qui se retirent, qui se tiennent à l'écart et qui cherchent leur propre intérêt, s'irritant contre tout ce qui est sage. On est confronté avec le négationniste, des gens qui nient la réalité d'un Dieu créateur. C'est ce que 2 Pierre va nous dire. Les gens vont nier que Dieu crée le monde. On est confronté avec des gens qui sont anarchiques et qui se révoltent contre à peu près n'importe quoi et pour qui n'importe quelle forme d'autorité est quelque chose de suspect. Et on a peut-être, chacun de nous, peut-être plusieurs parmi nous, ont fait partie de cette catégorie-là un jour. Moi, j'étais dans ça avant. Moi, mon grand plaisir, c'est de faire sauter les valeurs. C'est de faire sauter tout ce qui pouvait se faire sauter. C'était bien le fun. je connaissais pas la dynamite dans ce temps-là. Une chance. Une chance. Puis, mais c'était dans les... Je me disais, hey, les gens sont bourrés de préjugés, bourrés de tabous. Puis je me disais, ça n'a pas d'allure. Faut les éduquer, ces gens-là. Mais vous savez quoi? J'étais un très mauvais pédagogue. Hein? Ah, je communiquais, ça passait. Mais c'était tellement mauvais. N'est-ce pas? Donc, on est dans un monde, surtout, finalement, fait d'égoïsme, dans lequel on nous dit, pense à toi. Pense à toi. L'important, là, c'est que tu penses à toi. Pense à ta petite vie. Et ce qui est intéressant, c'est que dans toutes ces catégories de personnes, ils ont un point commun, malgré toutes leurs différences. Ces personnes-là ont un point commun dans lequel ils se rassemblent, sur lequel ils sont d'accord. C'est l'importance d'éliminer du monde la trace de Dieu. D'éliminer du monde l'empreinte du Dieu vivant. C'est pas étonnant que Dieu, dans Hébreux, premier chapitre, nous dit qu'il a envoyé Jésus qui est à l'empreinte de sa personne. Dieu a voulu imprimer dans le monde la réalité de sa vie, de sa présence, de son caractère. Et, dans le fond, donner aux gens qui auraient un certain sens, une certaine intelligence ou une certaine capacité de s'arrêter, un désir de s'ouvrir le cœur ou de s'ouvrir l'esprit aux réalités spirituelles, de donner une chance de faire l'expérience de Dieu. Vous savez, on est dans un monde dans lequel on a un combat à livrer comme chrétien. Et c'est ce qui est important qu'on comprenne. On a un combat qui est très intense. Et un combat dans lequel on est constamment en contact avec des gens qui sont de plus en plus désintéressés de Dieu. Le postmodernisme, on est rendu là. Des gens qui ne connaissent même plus l'identité de Jésus. Des gens, dans le fond, qui, pour eux autres, la spiritualité est peut-être une bonne chose, mais c'est tellement flou, c'est tellement vague. C'est tout puis c'est rien en même temps. N'est-ce pas? Et on est là, puis on apporte un message très ciblé, avec une personne très identifiable, un Dieu personnel. Et on est en face d'une gang d'insouciants, des fois des ignorants, des arrogants, même des insolents. Des gens qui ne se soucient pas de Dieu et qui s'enfoncent progressivement dans l'immoralité, dans le péché et qui coulent sous le fardeau du péché. Et nous, on est là, et notre responsabilité comme chrétiens, ce n'est pas juste d'être dans le monde, mais c'est de combattre le bon combat. C'est de prendre ce que Dieu met à notre disposition et d'amener, dans le fond, des gens à un changement d'idée fondamentalement. Et on est en train de combattre. Et ce que Paul va dire dans 2 Corinthiens chapitre 10, il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Mais il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Nous combattons, il dit, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons des raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et on amène à l'obéissance captif des gens à l'obéissance de Christ. C'est le combat du chrétien. Et vous savez quoi? C'est pas juste le combat des implanteurs. C'est le combat. C'est pas juste le combat des pasteurs. C'est pas juste le combat des évangélistes. C'est le combat de chaque chrétien qui a vraiment compris le sens de sa mission. Je vous pose la question ce matin. Qu'est-ce qui est votre mission? Hein? Je vous dis, qu'est-ce que c'est la mission? Vous allez dire, ah! Faites de toutes les nations des disciples. On est tous d'accord là-dessus. Tout le monde va dire amen. D'accord? Mais je vous pose la question, qu'est-ce qui est votre mission? À vous, personnellement. Où est-ce que Dieu veut vous voir vous investir? Comment est-ce que Dieu désire travailler dans votre vie, utiliser le potentiel de vie que vous avez dans le but d'atteindre les gens et de leur donner une chance à naître, un jour de faire face à la personne de Dieu en ayant eu une chance à naître dans leur vie, de dire, oui, moi j'ai entendu le message de l'Évangile. Je l'ai accepté ou pas, mais j'ai eu une chance à naître de connaître l'Évangile. Vous savez, quand on regarde la réalité, toute l'opposition du monde, c'est compréhensible de voir qu'on a des tensions et qu'on vit des pressions comme chrétiens. Et qu'à un moment donné, on en arrive dans notre vie, dans notre vie chrétienne, des fois avec le temps, avec l'usure, je dirais, à accepter des réalités qui sont inacceptables. On peut arriver puis de côtoyer un paquet de monde, de se dire, d'après tout, ces gens-là, ils n'ont pas l'air malheureux. C'est sûr, on n'est pas au Biafra, on n'est pas dans des milieux où est-ce que les gens sont en manque de nourriture, de l'essentiel, où est-ce que leur vie est en jeu. On est dans un monde qui, autour de vous, en général, les gens que vous voyez sont bien vêtus, sont bien nourris. Il n'y a pas de problème existentiel, il y en a, mais en général, disons que dans notre monde, on peut voir, dans le fond, qu'on est dans un monde qui est tout à fait humainement acceptable. Mais vous savez quoi? Ce sont des gens qui, sans l'intervention de Dieu, à moins d'un miracle de Dieu, ne changeront jamais. À moins de non seulement l'intervention de Dieu, mais à moins de l'investissement des croyants, à moins qu'on décide de s'investir comme croyants, on est dans un monde qui est rébarbatif à l'autorité de Dieu, à la parole de Dieu, à la personne de Dieu, et un monde, dans le fond, qui est désespérément perdu. Mais vous savez, nous, comme chrétiens, depuis le temps qu'on chemine, je sais pas, ça fait combien d'années que vous êtes chrétien. Moi, ça fait 30 ans que je suis chrétien. C'est ma 29e année de service à temps plein dans le ministère. Je suis depuis le début de ma vie chrétienne. Vous savez, on peut arriver à un point, dans le fond, à force de vivre des insuccès, à force, dans le fond, de voir des gens autour, de se dire, bon, regarde, c'est peine perdue, ça donne rien. Ça mène nulle part. J'ai parlé de l'Évangile, là, puis ça donne rien, n'est-ce pas? Et puis, dans le fond, ils n'ont pas l'appel. Ou, je pense qu'à un moment donné, ça ne vaut pas la peine. Pourquoi s'en faire pour des gens qui ne s'en font pas? On peut avoir toutes sortes de beaux discours intérieurs, n'est-ce pas? Puis de se donner toutes sortes de raisons. On peut être essoufflé, on peut se sentir replié sur nous-mêmes. On peut, à un moment donné, se sentir comme un peu arrêté, paralysé. Puis on lit Galates, chapitre 5, verset 7, qui dit, « Hey, comment tu fais que vous avez arrêté de courir? » Il dit, « Sachez que cette influence-là ne vient pas de celui qui vous a appelé. » On est confronté, on dit, ouais, c'est vrai, intellectuellement, n'est-ce pas? Puis, à un moment donné, on prend conscience que c'est important pour nous, et vous savez quoi? C'est possible pour n'importe qui, ça. N'importe quelle personne peut expérimenter un essoufflement dans sa vie spirituelle. N'importe quelle personne peut expérimenter le découragement. N'importe quelle personne peut faire face à un moment à des désillusions, puis de se dire, gars, ça vaut plus vraiment la peine de se débattre. Un peu comme quelqu'un qui est en train de se noyer, là. Mais comme chrétiens, on a eu de la part de Dieu des ressources qui sont là et qui doivent nous amener à faire des choix courageux. Et je crois que pour être capable de se poser la question « comment je vais faire pour m'en sortir? », il faut comprendre, dans le fond, que Dieu nous a donné des ressources pour nous permettre de pouvoir nous en sortir. Mais ça prend la décision personnelle de faire des choix difficiles. C'est des choix qui sont difficiles. Vous savez, quand quelqu'un s'embarque dans n'importe quel domaine qui est nouveau ou connu, il y a des choix difficiles qui sont à faire. Et quand on a fait la décision d'aller pour implanter une autre église, vous savez quoi? J'étais encore pas mal malade. Et il y avait eu des choix difficiles. Je me demandais, puis je me demande encore, honnêtement, pour être franc avec vous, je vois-tu toffer la run? Hein? Justement, je vois-tu sortir vivant de ça, cette affaire-là? Le gars qui part en guerre, là, pensez-vous qu'il se dit, ah, c'est sûr que je reviens vivant. Tout le monde va tomber autour de moi, mais hein? On ne sait pas, on ne sait rien. Mais vous savez, il y a des choses qu'on sait et sur lesquelles on doit capitaliser. On ne peut pas contrôler notre vie. Nos destinées sont dans la main de Dieu. Notre destinée, dans le fond, appartient au Seigneur. Et le message du monde nous dit, pense à toi, pense à ton bien-être, vis pour toi. Mais quand on rouvre la Bible, on rouvre la parole de Dieu, le message du ciel, le message de la Bible, c'est pense à Dieu. Vie pour le futur, vie pour l'éternité, vie pour Dieu. C'est ce message que les chrétiens entendent quand ils lisent la Bible. Peut-être que des fois, on se dit, bon, ben, on est peut-être mieux pas l'aller. On est mieux pas l'aller, c'est trop interpellant. C'est dérangeant. Fait que peut-être qu'on est mieux de la mettre de côté, comme ça, on va avoir une bonne conscience. On est quand même, après tout, on est sauvé, on est né de nouveau. Et puis, bon, la vie est belle. On a le meilleur de la vie, puis le paradis à la fin de nos jours. Qu'est-ce que tu veux de plus? Donc, c'est important de comprendre, comme chrétien, on a un défi. Et le défi, c'est de faire des décisions dans notre vie, des fois, qui sont courageuses, qui exigent du courage, même quand on n'en a pas. Fait qu'il va falloir le trouver quelque part, et d'accepter, dans le fond, de faire face aux réalités de ce que la parole de Dieu nous présente. Et vous savez quoi? Timothée, dans la parole de Dieu, était exactement à ce point-là. Il était exactement à ce point-là. Est-ce que Timothée a eu un bon gars pour lui donner son training, d'après vous autres? Hein? Moi, je vais vous dire, franchement, j'aurais bien aimé ça, avoir un gars comme ça qui prenne soin de moi. J'aurais bien aimé ça. J'ai poussé sur le tas, mon ami, puis j'ai fait toutes les erreurs du monde possible. Mais par la grâce de Dieu, je suis encore là. Parce que j'avais un encadrement qui était relatif. Mais pas, Timothée avait un homme qui était là pour lui parler. Et ce qu'il lui dit, il veut lui parler de la part du Seigneur. Et notre frère a dit ce matin, des fois, le Seigneur utilise des gens pour venir nous parler. Il dit, il ne parle pas toujours nécessairement correct, mais le Seigneur utilise des gens pour venir nous parler, pour venir des fois nous déranger, pour venir nous bousculer et nous dire, « Garde, il y a des choses que tu as oubliées. » Et Timothée semblait avoir oublié quelque chose d'important. Pourtant, Paul parle de son arrière-plan. Il dit, « Dans ta culture familiale, mon homme, tu as un super de bel arrière-plan. Dans ta culture de formation, là, ton leader, là, Paul, il savait qu'est-ce qu'il avait enseigné, qu'est-ce qu'il avait montré comme modèle, n'est-ce pas? » T'as des choses extraordinaires. Mais il dit juste une chose que je veux dire. Puis il parle un peu comme à un père avec son fils, évidemment. Il veut l'amener à faire des choix, un choix qui va faire la différence dans sa vie. Il lui donne quatre décisions importantes qu'il va faire. Premièrement, c'est de s'exposer à l'exhortation de l'Esprit. Quand Paul lui parle, il dit « Je t'exhorte à ranimer ». Donc, je t'exhorte. Il y a vraiment une puissance là-dedans dans l'exhortation, n'est-ce pas? C'est pas juste de dire, garde, oh, tu sais, je t'encourage si ça te tente, puis si tu as le temps. Si jamais tu y penses, là, Timothée. Si jamais le cœur t'en dit, Timothée, ça va bien, là. Tu sais, à un moment donné, tu vas te lever de bonne humeur, tu vas être en forme. Peut-être que tu pourras y penser. C'est pas comme ça que Paul pense. Il est en train de parler à un disciple qu'il connaît très bien, puis il dit, je t'exhorte, donc je te donne le défi dans ta vie personnelle de ranimer le don qui est en toi. Et ce qui est intéressant dans ce texte-là, c'est qu'il n'est pas en train de dire, je t'exhorte, Timothée, à laisser Dieu ranimer le don qui est en toi. Je t'exhorte, toi, à le ranimer. Ça veut dire qu'il y a une part qui appartient à Dieu dans notre vie chrétienne, dans notre engagement, mais il y a une part qui nous revient. Hein? Il y a des moments donnés où lorsqu'on veut se débarrasser du péché dans notre vie, hein? On peut traîner notre péché pendant longtemps et de dire « Ah, le Seigneur ne me l'a pas enlevé! » J'ai entendu ça souvent. « Le Seigneur me l'a pas ôté! » Oui, oui. Qu'est-ce que t'attends? Une apparition? Un ange? Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Quel principe de l'Écriture vient parler à ton cœur? Écoute ce principe-là. Et c'est important. Évidemment, le fait d'être ouvert à l'exhortation, c'est une chose, mais c'est sûr que ça implique un travail de Dieu. Mais il faut qu'au départ, notre cœur s'ouvre à l'exhortation. Si Timothée avait dit, Paul, achale-moi pas que tes exhortations, je veux rien savoir, il n'y a rien qui aurait changé. On est d'accord là-dessus? C'est la même chose pour nous. C'est pas différent. Dieu est en train de travailler. Je t'exhorte à ranimer le don qui est en toi. Et évidemment que Timothée devait se rapprocher de Dieu. Timothée devait retrouver une vie de plénitude. Éphésiens chapitre 4, la parole de Dieu nous montre. On doit vivre en étant rempli de l'Esprit Saint. Il devait nourrir son cœur de la parole. Qu'est-ce qu'il a vécu? Un certain détachement, un certain découragement, peut-être une forme de dépression. Il devait revenir à une communion ininterrompue. Quand Paul dit prier sans cesse. C'est en train de parler du modèle de la vie chrétienne. Il est en train de dire que la vie chrétienne, c'est de toujours parler à Dieu et de toujours écouter Dieu. C'est ça que ça veut dire, prier sans cesse. Ça veut dire, placez-vous à l'écoute de Dieu, placez-vous en disponibilité pour Dieu. Priez sans cesse. Restez en contact avec le gros fil. Où est-ce que passe le gros courant? N'est-ce pas? Si vous voulez avoir la dynamique de la vie de Dieu, branchez-vous. Il est en train de dire à Timothée, « Timothée, je pense que tu es débranché. Pour moi, tu es allé connecté, tu es né sur le petit fil de 110. » Le gros fil, là, c'est celui-là. C'est celui-là sur lequel tu dois te brancher. Si tu veux avoir une pleine puissance, il faut que tu te branches sur le gros fil.